savoir ce que c'est exactement que le cinéma.
Moteur !
Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Tous les cinémas du monde.
Marcello, come here.
Tous les cinémas du monde. Elisabeth Le Quéré, Sophie Torlotin.
Entrez dans notre cinéma. Bonjour Elisabeth.
Bonjour Sophie, bonjour à toutes et à tous.
Notre cinéma virtuel de RFI reste actif alors qu'un peu partout dans le monde, les salles ont refermé leurs portes. En France, mais également en Italie, en Belgique, en Grande-Bretagne, en Tunisie ou en Californie. L'industrie du 7e art commençait pourtant timidement, certes, mais sûrement à reprendre des couleurs, et ce, en dépit de l'absence des blockbusters américains, dont les sorties sont sans cesse repoussées à des jours meilleurs, voire directement basculées sur les plateformes. Nous allons faire le point dans cette émission sur la situation aux États-Unis, en Inde ou en Tunisie. Et puis, nous sommes en ligne avec deux acteurs importants de l'industrie française. Éric Lagesse, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur de Pyramide, société de distribution, et le coprésident de DIR, le syndicat professionnel des distributeurs indépendants. Et Richard Patry, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président de la Fédération nationale des cinémas français qui regroupe les exploitants, et puis vous êtes à la tête d'un groupe de salles et de programmation en Normandie. Donc on le craignait et Emmanuel Macron l'a annoncé il y a 10 jours, les cinémas ont dû de nouveau fermer leurs portes après avoir pu rouvrir dès la fin du mois de juin, donc pour quelques semaines. Alors ma première question à tous deux, quelle a été votre première réaction? Est-ce que c'est de la résignation, de la colère, de l'angoisse? Je sais pas qui on commence, peut-être Richard Patry.
Bah écoutez, un peu des trois. C'est-à-dire que bon, pour être franc avec vous, on voyait quand même la situation se dégrader, hein, puisque avant le refermement complet des salles, on a eu la mise en place de mesures de couvre-feu, d'abord sur quelques métropoles, et puis ensuite sur près de 80% du territoire. Donc c'est vrai qu'on voyait malheureusement le coup prêt à arriver. Alors on est bien sûr très triste. On est très triste parce que on avait gagné la bataille, on commençait à gagner la bataille. Malheureusement pas la bataille du virus, parce que celle-là, on le voit, elle n'est pas gagnée du tout. Mais nous, on commençait à gagner cette bataille de la reconquête des spectateurs, puisque nous avons refermé dans une période où la semaine précédente, il y avait quand même beaucoup de monde dans les salles, hein, plus de 3 millions de spectateurs dans les salles, ce qui était la meilleure semaine que nous avions fait depuis la réouverture des salles.
Juste pour avoir une idée, en temps normal, il y a combien
si
de spectateurs dans les salles?
La semaine correspondante avait fait 6 millions, donc on était à la moitié, si vous voulez. On était à peu près, on avait retrouvé la moitié des spectateurs, ce qui est quand même un bel exploit, hein, parce que, je vous le disais, à la fois il y avait du couvre-feu, donc c'était pas rien, et aussi il y a l'absence totale d'une grande partie, enfin de la moitié de ce que représente économiquement le cinéma en France, hein, puisque le cinéma américain représente 50% de part de marché, le cinéma français 40% de part de marché, le cinéma des autres nationalités environ 10%, hein, voilà les gros chiffres. Et donc, avec simplement, parce qu'il n'y avait quasiment plus que des dessins animés de films américains, mais plus de films, on va dire, des blockbusters traditionnels, avec simplement les films français, les films des autres nationalités, grâce au soutien massif des distributeurs et des producteurs, on avait réussi à faire quasiment 50% de part de marché, c'est-à-dire presque 100% de ce marché-là, ce qui était quand même assez exceptionnel. Et ce qui est une très bonne nouvelle pour l'avenir, c'est que le cinéma est toujours présent, le cinéma en salle est toujours présent dans l'ADN des Français. Ils ont envie d'y aller, et même dans ces périodes troubles avec un couvre-feu, ils vont au cinéma. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. La moins bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, tout d'un coup, on nous a coupé les ailes et on a refermé malheureusement.
Et on ne sait pas pour combien de temps. Et vous, Éric Lagesse, j'imagine que c'est d'autant plus dur que vous devez sortir là. Il y a quelques jours, il aurait dû sortir de Singing Club, un feel-good movie, un film qui fait du bien, de Peter Cattaneo.
Ben en fait, c'est un film que nous avions déjà programmé le 8 juillet et que nous avons dû déprogrammer que nous avions reprogrammé le 4 novembre, que nous devons maintenant déprogrammer. Et si vous voulez, à un moment donné, on n'y arrive plus, quoi. C'est-à-dire que moi, le 8 juillet, en fait, on avait fermé les cinémas bien avant, donc je n'avais aucun frais vraiment sur le film, hein, sinon ce qu'on appelle le MG, c'est-à-dire le prix d'acquisition de ce film que j'ai payé. Et là, si vous voulez, à quelques jours de la sortie, je me retrouve en fait avec énormément de frais dehors. Donc ça, c'est d'un point de vue très terre-à-terre, très basique. On m'a laissé, d'une certaine façon, dépenser beaucoup de frais sur ce film, comme s'il allait sortir le 4 novembre. Et en fait, on me dit, quelques jours avant, que je peux plus sortir le film, en fait. Et c'est pareil aussi pour les distributeurs qui, eux, ont sorti des films le 28 novembre. Et on leur dit
le 28 octobre.
Le 28 octobre, et on leur dit un jour avant que finalement leurs films ne passeront plus dans les salles, leur film est mort. Peut-être qu'il revivra quand les salles réouvriront dans je sais pas combien de temps.
Voilà, c'est ça, parce qu'il y a une espèce d'optimisme de la volonté, hein, chez certains distributeurs, Éric Lagesse, hein, qui continue à penser que des films pourront sortir, par exemple celui de Daniel Arbide début janvier, voire avant. Mais bon, l'essentiel, hein, c'est une sorte de dégringolade. On voit tous les films se déprogrammer.
Mais si vous voulez, moi j'avais un film en effet le 4 novembre, mais j'en avais un aussi le 11 novembre. J'en avais un le 2 décembre, L'Ours d'or de Berlin de cette année, que j'ai acheté, le film de Mohamed Rassoulov qui s'appelle Le diable n'existe pas. J'en ai un le 23 décembre. Est-ce que je vais arriver à sortir un film le 23 décembre? Moi, je ne sais pas. Si les salles réouvrent le 16 décembre, mettons, avec les exploitants, avec les distributeurs, on se dit, allez, c'est peut-être cette date, on va tabler un peu sur cette date, mais on est sûr de rien. Je veux dire, comment moi, j'arrive à sortir un film le 23 décembre qui n'est pas préparé? Parce que sortir un film, ça demande deux, trois mois de préparation. Donc, ça demande évidemment de moi, mon affiche, ma bande-annonce est prête, mais les bandes-annonces ne sont pas dans les salles ne peuvent pas les passer. Je veux dire, les bandes-annonces, c'est fait pour être passé un mois avant, pour que les gens se disent « Ah, ce film-là, j'ai envie de le voir quand ils vont voir d'autres films ». Mais si les salles réouvrent le 16 décembre et que moi, je sors le 23, comment je passe mes bandes-annonces une semaine seulement? Comment j'affiche? Qu'est-ce que j'affiche? Je veux dire, comment je rattrape la presse? Les journalistes qui ne l'auront pas vu, qui n'auront pas le temps de le voir, etc. Donc tout ça, c'est un enchaînement, si vous voulez, qui en entraîne d'autres, et on se retrouve dans une situation totalement ubuesque. Certes, moi, mon travail, c'est de sortir des films en salle, donc je continue à essayer de faire en sorte que je vais les sortir. Mais c'est clair que le virus va plus vite que nous. Nous, on a besoin de temps. Le virus, il va très très vite. Et c'est vrai que je suis un petit peu quand même... je comprends très bien la situation et je comprends qu'on soit résolu et le gouvernement, j'aimerais pas être Premier ministre, j'aimerais pas être Président de la République en ce moment, d'ailleurs même dans les autres moments je pense, mais en tout cas, je veux dire, je comprends, mais il y a un moment donné, si on m'avait dit il y a 2 semaines, attention, on va reconfiner à telle date, moi je m'en serais mieux sorti en fait, c'est-à-dire que là vraiment, on ne nous laisse pas 24 heures pour nous retourner, c'est extrêmement douloureux, en fait.
Et le coup près, Éric Lagesse, est tombé sur toutes les professions et probablement, oui. On pense bien que le bien gouvernement est à la godille, enfin hésite, il y a énormément d'hésitations d'ordre et de contrôle. Mais je voudrais vous poser une question précise.
Oui.
Pour un distributeur comme vous, c'est-à-dire qui est de bonne taille, un petit distributeur, certainement pas non plus une des grandes majors françaises, ça se chiffre à combien le nombre de films aujourd'hui, donc début novembre, sur les étagères?
Ah ben, moi, je sors une quinzaine de films par an, d'accord? Donc, une quinzaine de films par an, vous divisez par 12, vous voyez à peu près que ça fait à peu près un film par mois et quelques mois, deux films par mois. Donc, en fait, moi, je me suis retrouvé finalement, lors du premier confinement, j'ai pas pu sortir de film du tout. Donc, mon film de fin mars, je l'ai sorti 1er juillet, donc je n'ai rien sorti entre. Donc, tous les films qui devaient sortir en mars, en avril, en mai, en juin, je n'ai pas pu les sortir, donc je les ai repoussés, comme The Singing Club, que j'ai repoussé du 8 juillet au 4 novembre. Et là, je me retrouve à nouveau avec des films. Donc, en fait, je vais me retrouver dans un embouteillage l'année prochaine, parce que moi, en effet, mes sorties sont datées jusqu'à mai. Comme je vous explique qu'il nous faut au moins 3 mois pour travailler sur les films, on date nos films très, très en amont. Donc, moi, j'ai beaucoup de films à sortir, que je ne vais pas vous énumérer, mais dont Passion simple, en effet, de Daniel Arbide, le 6 janvier. est-ce que je vais pouvoir sortir Passion Simple le 6 janvier ? Et comment, où je remets mon film du 2 décembre, où je remets mon film du 4 novembre, où je remets mon film du 11 novembre, où je les case en fait. À un moment donné, on peut pas tous sortir des films toutes les semaines. On va engorger les salles et ça va faire du mal à tout le monde.
Et qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que en fait, là, il y a eu un marché à Cannes, oui. Un marché du oui. film virtuel, comme probablement ouais. dans quelques mois, il y en aura un au Festival de Berlin. Ça oui. veut dire que vous, qui êtes à la fois un distributeur et un exportateur de films, mmh. qu'est-ce mmh. que vous avez acheté ? Rien, j'imagine ?
Bah, écoutez, je peux quasiment rien acheter parce que ce que j'achète là, maintenant, je continue à lire beaucoup de scripts. Là, pour le coup, j'ai du temps pour lire des scripts. Donc, je lis beaucoup de scripts et je m'engage sur des films qui vont être tournés l'année prochaine et qui seront prêts en 2022. Donc, j'ai acheté un film, en fait, dans un excès d'optimisme qui est le film italien d'ouverture de Daniele Lucchetti, le film italien d'ouverture de Venise. Donc en septembre, qui s'appelle Lachi, enfin le titre en français est encore à trouver, qui est un film que j'ai adoré, qu'on avait programmé en mars, mais je pense qu'on pourra jamais le sortir en mars, parce qu'on aura trop de films à sortir avant. Donc en fait, mais je suis quasiment à l'arrêt en termes d'acquisition nouvelle de films à sortir l'année prochaine, parce que j'ai beaucoup trop de films.
Donc, embouteillage, on oui. s'attend à, lors de la reprise des cinémas, un embouteillage de films français. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, mais au moins, ils ne feront pas face forcément à des blockbusters américains. Je vous propose qu'on parte provisoirement et en musique en Californie. Le okay. temps d'une douceur musicale en compagnie d'Herman Dune, qui vient de sortir un nouvel album, Notes from Vinegar Hill.
People don't apologize when I stand in loneliness. The minute I open my eyes, I can't unsee the phoniness. I try to stay up but I can't. I fall asleep to fireworks, my name under a sycophant, on the marquee of the Echoplex. Yeah, I forget all about you.
About you.
There's more important things to do.
Things to do.
I forget all about you. There's more important things to do. When you live in Hollywood, line up at your door to inform you that everything you do is good. Now where is the entourage when I'm at the end of my rope? I'm looking for Nicki Minaj down by the slippery slope. I forget all about you.
About you.
There's more important things to do.
Things to do.
I forget all about you. There's more important things to do.
La situation des cinémas aux États-Unis. Alors, est-ce que c'est quelque chose que vous étudiez tous deux, Éric Lagès, Richard Patry. Peut-être on peut voir avec vous, Richard Patry, vous qui êtes exploitant, qui avait donc des salles et qui est le patron de la FNCF, la Fédération des exploitants. Est-ce que vous avez, bon évidemment la situation en France vous concerne au premier chef, mais est-ce que vous avez un œil sur les sorties de blockbuster? C'est quelque chose que vous guettez?
Alors bien sûr, hein, on a un œil important. Alors il faut bien voir d'abord que il existe une fédération internationale des cinémas où la France joue un rôle important. Ça s'appelle l'UNIC. C'est une fédération de toutes les salles de cinéma du monde. Donc bien sûr, on discute énormément avec nos collègues et donc on discute de plein de sujets. Bien sûr, l'alimentation en films américains est un des sujets importants. Il y a aussi tous les mécanismes d'aide qui sont mis en place pour soutenir la filière et je peux vous dire que l'exception culturelle existe dans notre pays, c'est vrai, et que à chaque fois que nous expliquons à l'international les mesures qui sont mises en œuvre pour nous aider à passer cette crise, on fait un peu l'admiration de nos collègues. Je veux juste vous donner un exemple, mais qui démontre quand même la situation. Hein. L'exploitation en France, c'est 15 000 salariés. Bien sûr, comme nous sommes fermés, ces salariés sont au chômage partiel. Aux États-Unis, pendant que nous, on discute avec le gouvernement de plans d'aide, de plan de réouverture. Mon collègue américain, lui, il organise des soupes populaires pour les 150 000 salariés des salles qui, eux, sont au chômage et sans toucher d'argent. Donc, il faut un tout petit peu relativiser aussi la situation. C'est vrai que la situation est grave, mais que faut quand même toujours se dire qu'on a la chance d'être français et que, d'une certaine façon, la culture, c'est quand même, ça compte chez nous et qu'il y a une prise en compte au niveau à la fois des entreprises que nous sommes, mais aussi plus particulièrement sur le secteur culturel. Alors, sur l'alimentation des films américains, eh bien, de toute façon, on n'a pas plus de visibilité que nous en avons pour le reste des choses. C'est, je comprends complètement ce que vient de dire Eric sur la problématique d'achat des films, etc. Nous n'avons aucune visibilité. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui à quelle date nous allons réouvrir. Et je peux vous dire que quand nous avons réouvert le 22 juin, personne n'imaginait que nous aurions à refermer. Donc si c'est pour réouvrir le 15 décembre et refermer le 15 janvier parce que la situation se redégrade, bien sûr qu'il va falloir qu'on évalue ça, parce que moi, je pense à Mewen, je pense à Nicolas Maury et effectivement à tous ces créateurs qui ont travaillé des années sur leurs films, aux producteurs qui les ont financés, aux distributeurs qui les ont distribués. Deux jours d'exploitation, mais c'est un crève-cœur hallucinant, même si les salles vont bien sûr s'engager à reprendre ces films et nous le ferons comme nous l'avions fait à la réouverture. Néanmoins, il est vrai qu'on a besoin d'une vraie vision. C'est-à-dire qu'on peut pas continuer à barrer le navire avec une visibilité d'une semaine ou de deux semaines. C'est pas possible. Encore une fois, si on réouvre les salles, il faut que nous ayons des films, il faut qu'on ait l'assurance d'avoir une vision sur le calendrier des films français, mais aussi sur le calendrier des films américains. Et pour l'instant, nous n'en avons aucune. Et puis, il faut qu'on sache effectivement si on réouvre pour de bon ou si on recommence, parce que on va pas prendre en permanence cet ascenseur qui monte, qui descend, qui monte, qui descend en permanence. Il faut que le public ait une vision claire. Mais bien, actuellement, nous n'avons absolument aucune vision sur la sortie des films américains.
Alors, aux États-Unis, justement, ça monte pas. Enfin, en tout cas, l'ascenseur ne monte pas et ne descend pas. C'est-à-dire que l'ascenseur presque est à l'arrêt en bas de cale, puisque certaines salles, dans certains États, et particulièrement en Californie, n'ont jamais rouvert depuis le printemps. Et pour cause, hein, aux États-Unis, on recense en ce moment jusqu'à 1000 morts, 100 000 nouveaux cas quotidiens de coronavirus. Donc, ça ne va pas inciter les gouverneurs de Californie ou de New York à rouvrir les salles de cinéma. Or, les marchés de Los Angeles et de New York représentent un tiers, hein, en gros, des recettes du box-office aux États-Unis. Donc, c'est une situation dramatique pour les exploitants américains. Loïc Piala, vous êtes notre correspondant en Californie. Donnez-nous une idée de l'ampleur de la catastrophe.
Eh bien, l'Association nationale des exploitants, la NATO, le lobby des exploitants, en fait, à Washington, a écrit au Congrès américain, avec le soutien notamment de Clint Eastwood, pour prévenir les élus que, sans aide du gouvernement, 70% des petites et moyennes salles risquaient à terme la banqueroute. AMC, la plus grande chaîne de cinéma au monde, hein, serait au bord de la faillite, avec une baisse de la fréquentation de 85%, 900 millions de dollars de pertes sur un an. AMC a des dettes gigantesques et s'attend à avoir épuisé ses réserves de cash dès le début de l'an prochain. Une petite chaîne, Studio Movie Grill, a elle déjà déclaré faillite. Les quelques 500 cinémas de la chaîne Regal ont rouvert pendant l'été après le confinement. Eh bien, ils ont vite refermé leurs portes, parce qu'en gros, rester ouvert coûtait trop cher. 40 000 emplois sont concernés. Et puis, des cinémas tournent aussi avec des horaires réduits pour limiter leurs coûts de fonctionnement. Et puis, la capacité d'accueil est elle aussi réduite. Là, c'est pour des raisons sanitaires. Mais on peut se demander, en fait, si les Américains se sentent prêts à retourner dans les salles. Et ça, ce n'est pas dit du tout.
On imagine, hein, que Loïc, que les exploitants cherchent des solutions.
Effectivement, par exemple, avec les règles de distanciation sociale, les projections privées explosent. Vous pouvez inviter une vingtaine de personnes pour seulement 100 $. Et cette tendance permet aux salles de générer des revenus supplémentaires. Une autre initiative, bien moins anecdotique, c'est le deal passé entre AMC et les studios Universal. Un film Universal qui sort dans un cinéma AMC est disponible en paiement à la demande seulement 17 jours plus tard, au lieu des 75 jours habituels. En échange, AMC récupère une partie du prix de la vente, mais certains pensent que l'industrie se tire une balle dans le pied parce qu'un spectateur n'aura plus longtemps à patienter pour voir le film chez lui. Et en principe, cette fenêtre d'exclusivité de 75 jours doit protéger les salles. Par contre, les grands studios assurent qu'ils ne cherchent pas à racheter une chaîne de cinéma comme dans les années 30 à Hollywood.
Et puis, il n'y a pas vraiment de grosses sorties pour attirer le public.
Alors l'industrie comptait sur Chris Nolan et la superproduction Tenet pour la sauver en septembre. Malheureusement, le film n'a récolté qu'une 50 millions de dollars aux États-Unis et cet échec relatif a refroidi les studios. Du coup, le nouveau James Bond qui devait sortir ce mois-ci a été décalé. Soul, le prochain Pixar aussi. Warner programme toujours Wonder Woman 1984 à Noël, mais si d'ici là les salles de Los Angeles et New York ne rouvrent pas, le studio changera sans doute d'avis. Et sans blockbuster, hein, les salles ne peuvent pas attirer de spectateurs. Et puis de quel film on a entendu parler ces dernières semaines, hormis Tenet justement, Borat 2 disponible sur Amazon Prime, ou encore Les 7 de Chicago produit par Netflix, soit des films sortis sur des sites de streaming, hein, pas des films sortis en salle.
Voilà la situation dramatique aux États-Unis, une situation qui peut avoir des répercussions dans le monde entier. Ça bouleverse toute la filière industrielle, en fait, et ça accélère peut-être les transformations en cours, la montée en puissance des plateformes. Est-ce que c'est un peu aussi une crainte que vous partagez tous deux? Alors peut-être on peut commencer avec vous, Éric Lagesse.
Oui, moi je partage cette crainte, évidemment, mais en fait, ce que j'entends de votre correspondant, on est dans un pays... J'ai fait de l'exportation de films depuis très longtemps, donc en fait, je suis distributeur français, je sors des films en France, mais j'ai aussi une équipe de vente qui vend ces mêmes films, pas toujours les mêmes, mais en tout cas, qui vend des films aux distributeurs étrangers. C'est une activité, comme je vous l'ai dit plus ou moins tout à l'heure, qui est beaucoup plus, qui souffre beaucoup plus, parce qu'évidemment, quand on a autant de films à sortir, qu'on soit distributeur italien, espagnol, américain, japonais, et que les salles ferment, réouvrent ou alors restent fermées, on n'achète pas de films. On essaye déjà d'épuiser le stock qu'on a déjà. Donc, mais moi, quand j'entends finalement que les salles ne peuvent vivre que sur des blockbusters, je veux dire ce que Richard a dit tout à l'heure, il y a quand même une exception française, il y a quand même des films français, il y a quand même du public pour ces films français, ces films d'auteur. C'est déjà absolument formidable. Évidemment, les salles ne peuvent pas vivre que sur les films français ou des films d'auteur que nous sortons, nous, distributeurs indépendants. Ils ont besoin des blockbusters. C'est pour ça qu'il peut y avoir des effets d'aubaine et certains films français peuvent marcher mieux en salle en ce moment, enfin en tout cas hors confinement, parce qu'il n'y a pas de film de blockbuster en face. Mais ce n'est pas une situation enviable, ce n'est pas une situation qu'on veut voir pérenniser. C'est évident que ça fait du mal à tout le monde et ça nous fera du mal, nous, distributeurs, au bout du compte, parce que une fois que les salles auront fermé et ne pourront plus tenir, où est-ce qu'on va diffuser nos films?
Mais donc du ça, coup, c'est vrai. Oui. Pardon de vous interrompre, Eric, mais du coup, est-ce que ça veut dire qu'il y a toute une année de cinéma français qui possiblement, on disait, est sur les étagères, mais ça veut dire que probablement il y aura beaucoup de casse et que certains de ces films ne sortiront pas en salle?
Ah ben, il y a des films de toute façon qui sortiront pas en salle, mais je parle pas vraiment des films français, mais c'est évident qu'il y a des films, il y a certains distributeurs. Ben, cet été, le Pacte a décidé de vendre Pinocchio à Netflix. Le Pacte ne pouvait plus sortir le film en salle, etc. C'est une décision qui a été contestée par les exploitants. Bon, le Pacte a ses raisons. Moi, je rentre pas dedans, mais en tout cas, c'est un des exemples.
On dit que beaucoup de producteurs se tournent vers les plateformes, mais que les plateformes ne sont pas forcément, enfin, autant elles peuvent être intéressées par Pinocchio.
Bah oui, non,
autant elles ne le sont pas par tous les films.
Ah bah, je vous assure, c'est pas du tout un aspirateur à film, les plateformes. C'est très difficile de vendre un film aux plateformes. C'est extrêmement compliqué. Et je veux dire, mais vous voyez bien ce qui se passe sur James Bond. Je pense que tous les exploitants du monde sont extrêmement stressés à l'idée que Netflix, finalement, mette le prix que les producteurs de James Bond veulent qu'ils mettent sur la table afin de récupérer le film en exclusivité et qu'il ne sorte plus en salle.
C'est-à-dire, c'est 600 millions de dollars, c'est ça?
Oh, je crois que c'est même plus. Je sais même plus, mais en tout cas, c'est tellement haut que je me rappelle pas exactement, mais je crois que c'était autour de ça, absolument. Mais les plateformes, ben, de toute façon, cette situation ne fait que profiter aux plateformes. Évidemment, c'est une situation où on est assis sur le divan. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On regarde des plateformes, on regarde la télévision. C'est une évidence. Mais, c'est vrai, Richard l'a dit, le cinéma, quand les salles ont réouvert, le cinéma a redémarré. Ça a mis du temps, parce que c'est comme un vélo arrêté en pleine côte. Pour redémarrer, c'est difficile. Mais on était arrivé à un niveau quand même formidable. Quand le film de Dupontel démarre et fait son meilleur démarrage d'un film de Albert Dupontel.
Adieu les cons, pardon.
Oui, c'est formidable. Donc ça veut dire quand même qu'il y a un public, il y a un vivier. Les gens veulent continuer à aller au cinéma. Et voilà.
Alors allons voir en Inde, puisque là les salles ont rouvert et il y a du monde. Dans les salles, les cinémas ont été autorisés à rouvrir par le gouvernement fédéral le 15 octobre dernier, après 7 mois de fermeture. Hein. 7 mois de fermeture, c'est énorme. Alors l'Inde, il faut le rappeler, c'est le pays qui compte le deuxième plus grand nombre de cas de Covid après les États-Unis. Et c'est aussi un énorme pays producteur de films. La plupart des États ont rouvert leurs salles, mais avec des mesures très strictes d'hygiène et de distanciation. Le public revient, même s'il revient encore un peu timidement. C'est un reportage de notre correspondant à New Delhi, Sébastien Farsi.
9899.
Dans ce cinéma de New Delhi, la première étape pour acheter un billet est de donner son numéro de téléphone. En effet, plus de tickets papier ici, on le reçoit sur son portable. Ensuite, dans le bâtiment, à 2 étapes différentes, des gardes nous prennent la température, vérifient qu'on porte bien un masque, et nous voilà donc dans la salle. À l'intérieur, sur les 300 sièges, la moitié sont barrés avec de grandes bandes plastiques. On ne peut donc s'asseoir que sur 1 siège sur 2 pour garantir une certaine distance. De toute façon, pas d'inquiétude à ce sujet ce mercredi soir, il n'y a que 4 spectateurs dans la salle. Parmi eux, le jeune Afraz est venu avec son frère, c'est un habitué.
Je n'ai pas peur du Covid-19 ici. Regardez, il n'y a personne. C'est la 3e fois que je viens depuis qu'ils ont rouvert. Je n'en pouvais plus de rester à la maison. Je viens 2 fois par semaine maintenant. Mon père ne veut pas que j'aille dans les bars. Alors pour passer le temps, après le travail, je viens ici. C'est cool, je me relaxe. Et c'est moins cher qu'avant, c'est 100 roupies.
Cette chaîne de cinéma, appelée PVR, a cassé le prix d'entrée qui tombe à environ 1 euro le ticket. Il faut dire que la majorité des films diffusés sont des rediffusions, comme celui montré ce soir, un long métrage indien sorti la première fois en 2018, un film qu'Afraz adore.
J'ai vu ce film 7 fois. C'est l'un de mes préférés. J'adore aller au cinéma et je vais voir plusieurs fois les mêmes films.
Ce manque de nouveaux longs métrages est l'un des plus grands problèmes pour les opérateurs, comme le confirme Kunal Saone, vice-président et responsable des opérations dans le groupe Carnival Cinemas.
Dans toutes les régions où il n'y a pas de nouveaux contenus, les salles ne sont occupées qu'à 10 ou 15% de leur capacité. Mais au Bengale occidental, lors du festival du Durga Puja, de nouveaux films sont sortis et les salles étaient alors pleines pendant 4 jours. Notre priorité, c'est de regagner la confiance du public pour qu'ils reviennent dans les salles. Pour cela, nous réduisons nos prix, bien sûr, surtout que nous projetons principalement des films anciens. Et nous avons aussi une offre qui marche bien, par laquelle tous les guerriers du Covid reçoivent un ticket gratuit, comme les docteurs, les travailleurs, travailleurs municipaux et les policiers.
True free tickets to all the COVID warriors, which includes the municipal staff, doctors, police.
Les cinémas sont toujours fermés dans plusieurs grands États indiens comme le Tamil Nadu et le Telangana, et ils viennent à peine de rouvrir dans la région de Bombay. Sébastien Farsi, New Delhi, RFI.
Donc pour attirer du public en Inde, bon, il y a la baisse des prix et puis après des mesures comme on prend le numéro de téléphone des clients, un QR code plutôt qu'un ticket physique. Voilà, est-ce que Richard Patry, lorsque on l'espère le plus rapidement possible, mais les cinémas rouvriront en France, ça c'est des mesures que vous pourriez adopter, ça?
Ah bah écoutez, la mesure des guerriers du Covid, d'offrir des places aux guerriers du Covid, on l'a aussi en France, mais plutôt sur un niveau régional. Hein, les régions ont beaucoup fait ça, hein, ont offert des places de cinéma aux soignants, etc. Et c'est une très très bonne mesure. C'est pas une mesure nationale, mais c'est une mesure qui a été déclinée dans beaucoup d'endroits. Je dirais que si vous voulez, bon, d'abord ça fait du bien d'entendre votre reportage, parce que ça veut dire que en Inde aussi, et c'est un grand pays de cinéma, l'Inde. Hein, en Inde aussi, il y a un vrai appétit pour les salles et un vrai appétit du public pour les salles. Et ça, c'est par rapport à cette, pas de guerre, mais par rapport à cette confrontation avec les plateformes, c'est capital. C'est-à-dire que pour nous aujourd'hui, au-delà de la réouverture, dont il va falloir qu'on ait la visibilité, mais malheureusement on a assez peu de visibilité, mais on en a déjà fait une réouverture, donc on a vu ce qui a marché, on a vu ce qui a été un peu moins bien marché. Au-delà de ça, ce qui est important, c'est de ne pas perdre cette alimentation en film et en film important, en blockbuster, parce que tous les films comptent. Hein, la force du modèle français. C'est sa grande diversité, mais n'oublions pas non plus que ce modèle n'est pas financé par de l'argent public, mais par l'argent du public, hein, puisque le modèle de l'exception culturelle, de l'aide au cinéma en France, il est financé par le fait que quand vous venez voir un film américain, vous payez en fait dans la salle de cinéma ou quand vous le regardez à la télé, une taxe qui permet de financer la production de nouveaux films français. Donc ce modèle-là, il a aussi besoin de films étrangers pour fonctionner, et donc de blockbusters américains, et nous avons besoin, nous les salles de cinéma, pour assurer notre équilibre économique de ces films. Donc effectivement, l'inquiétude que nous avons aujourd'hui, ce serait d'être lâché par les distributeurs américains, par les producteurs américains de ces gros films. Eric a parlé de James Bond à l'instant, mais nous, on vient d'être lâché par Disney sur un film qui est pourtant un grand dessin animé de qualité qui s'appelle Soul, donc qui est parti sur la plateforme Disney+. Donc malheureusement, nous ne verrons pas en salle. Et pour moi, c'est vraiment un crève-cœur. Disney a fait le coup une fois avec Mulan, il refait le coup avec Soul. Et l'inquiétude majeure que nous avons actuellement, c'est que les distributeurs ne changent pas de modèle. C'est-à-dire que les producteurs et les studios américains ne changent pas de modèle et se disent, bah, la salle, c'est fini. Il y a plus de business à faire en salle. Et donc, l'ensemble de nos productions, on les passe directement sur les plateformes. Et ça, pour nous, ce serait absolument dévastateur. Nous croyons en France, en la salle de cinéma. Quand il y a des films, il y a des spectateurs. Et ce binôme film-salle, en France, il fonctionne de façon assez exceptionnel. On a des films, on a des spectateurs, et les films qui ont été à l'affiche, hormis ceux qui sont sortis les quelques dernières semaines, qui n'ont pas malheureusement trouvé leur public, qui n'ont pas eu le temps de le trouver, mais il y a quand même eu de très 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 beaux succès, hein, depuis la réouverture. Sur la diversité, il y a eu de très 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 beaux succès de films français qui ont vraiment retrouvé leur public et trouvé un public exceptionnel. On parle d'Antoinette dans les Cévennes qui fait 750 000 spectateurs, ce qui est exceptionnel pour un film comme ça. Eric aussi, hein, a eu quelques très beaux succès avec Les Parfums, mais je lui laisserai en parler lui-même, mais ou Les Choses qu'on dit et Les Choses qu'on fait. Donc il y a un moment d'espoir, mais ce qu'il faut, c'est qu'on ait ces blockbusters américains, parce que c'est sûr que si tout d'un coup on perdait cette partie-là, ce serait très très difficile pour nous d'équilibrer, et en plus pour la France, de maintenir ce modèle exceptionnel qui fonctionne sur la mutualisation et sur le fait que les films américains payent un peu pour le film cinéma français d'une certaine façon.
Et est-ce que vous êtes, alors en même temps les discussions peut-être ne font que commencer, mais rassurés par la politique volontariste affichée par le ministère de la Culture, Roselyne Bachelot qui dit qu'elle veut mettre à contribution les plateformes dans le financement du cinéma français. Elle leur propose en échange un assouplissement du calendrier des médias hein, qui régit les sorties en salle, puis en DVD, puis les passages sur les plateformes, en échange d'un assouplissement. Leur demande demande de, je sais pas, de contribuer à hauteur de 20 ou 25% de leur chiffre d'affaires à la production française.
C'est les grands, le grand débat que nous allons avoir là dans les prochaines semaines, hein, ce qui est absolument, effectivement, un peu bizarre, puisque au moment où les salles sont fermées, on discute de ça, mais c'est un problème de calendrier là pour le coup. Hein. On discute donc de la transposition de la directive Médias sans frontières dans le droit français, hein, qui s'appelle le décret SMAD, hein, qui est actuellement en cours de discussion. Vous l'avez expliqué, hein, c'est faire en sorte que les plateformes aient des obligations d'investir dans le cinéma français, en échange de quoi ils rentreraient dans la chronologie des médias. Alors oui, bien sûr, c'est de l'argent. Hein. On parle de plusieurs dizaines de millions d'euros. Hein. Donc c'est beaucoup d'argent. C'est de l'argent qui irait en direction des producteurs et donc des distributeurs aussi d'une certaine façon, puisque ces films auraient l'obligation de sortir en salle, ce qui est absolument pas le cas actuellement pour certaines plateformes qui, comme je vous l'expliquais, zappent complètement la salle de cinéma et qui veulent une exclusivité totale des droits sur leur plateforme pour sortir ces films. Donc oui, ce serait une évolution totalement intéressante, mais les discussions sur ce point ne font que commencer et il faut voir quels seront l'état des obligations pour leur permettre justement d'accéder à ces films.
How are you morning? The air is soft and gray. Down in the harbor, the ships are on their way. It's been raining. The green fields unscorched, the roosters crowing on the neighbor's porch. Wake up now with the light of day. Put a shawl and bow. Take a minute to pray. A childhood's blessing underneath a shroud, a rainbow's showing through a big old cloud. How are you morning? The air is soft and gray. From the rolling hills to the San Pedro Bay, the cat is meowing. He says it's time for chow. He's been a roaming and a moaning to the break of dawn. I get a feeling that my baby waits. I can hear her tapping on the kitchen plates. Coffee's brewing. Newspapers on the stoop go straight to the funny and the horoscope. How are you morning? The air is soft and gray. I've been recording, singing every day. Sometimes my voice is broken. Sometimes it's really low. Sometimes it takes me a second. Sometimes it's really slow. I see the hummingbird by the lemon tree, hovering over. It's a lemon tree. Me and my baby stay local. We stay in bed all day. How are you morning? The air is soft and gray. How are you morning? The air is soft and gray. How are you morning? The air is soft and gray.
Vous êtes bien à l'écoute de tous les cinémas du monde sur RFI. Nous sommes toujours en compagnie d'Éric Lagesse et Richard Patry pour faire un point hein, sur la situation du cinéma à l'heure du deuxième confinement en Europe, mais aussi dans le monde entier, un peu en ordre dispersé. En Tunisie, par exemple, comme en France, les salles ont fermé, puis rouvert cet été et de nouveau baissé le rideau. Michel Picard, bonjour, vous êtes notre correspondant à Tunis. Quelles sont les conséquences de la pandémie sur le cinéma ?
Ici, les salles de cinéma, en fait, sont fermées depuis le 5 octobre après avoir déjà dû tirer le rideau 3 mois, de mars à juin, même un peu plus longtemps pour les grands complexes multisalles. Autant dire que l'ambiance est morose dans le milieu cinématographique. Une manifestation dénonçant les fermetures de salles, alors que les cafés par exemple sont ouverts, a même eu lieu au début du mois devant la Cité de la Culture à Tunis. En pleine crise économique et sociale violente, ces espaces culturels constituaient pourtant une échappatoire, notamment pour les jeunes qui ont l'habitude de fréquenter les petites salles tunisoises.
Et en même temps, alors je ne sais pas si c'est un paradoxe, mais le cinéma tunisien ne cesse de briller sur la scène internationale.
Si la fermeture pèse lourd, en effet, sur tout un pan de l'industrie locale, les films tunisiens se font tout de même remarquer à l'étranger, comme le long-métrage « L'homme qui avait vendu sa peau » avec Monica Bellucci. Le film de la cinéaste Kawter Benania vient de remporter 2 prix à la Mostra de Venise et autant au Festival du film méditerranéen de Bastia, un film qui, rappelons-le, n'a pas encore été projeté en Tunisie. Depuis 10 ans et la fin de la dictature, une nouvelle génération de cinéastes et producteurs a pu porter à l'écran des thèmes longtemps bannis, des remous sociaux aux questions politiques en passant par les conflits de l'intime. Fini les non-dits et les métaphores pour aborder désormais des thèmes sensibles. Cette sincérité et cette authenticité ont permis non seulement de remplir les salles, mais révéler également donc des succès sur la scène internationale.
Alors, au-delà de ces succès à l'étranger, quelles sont les conséquences de la crise sur l'industrie, donc actuellement l'industrie du cinéma en Tunisie ?
Eh bien, les propriétaires et exploitants de salles de cinéma, sans recettes, espèrent payer une partie de leurs charges avec les aides promises par l'État. Et du côté des productions et des acteurs, les conséquences sont plus lourdes car tous les tournages ont d'abord été suspendus 3 mois au printemps. L'arrêt une seconde fois de la vie cinématographique du pays après une longue période de confinement et de déconfinement ciblé au cours de cette année est donc un coup dur. Les professionnels du secteur se sentent livrés à eux-mêmes et ils affirment qu'aucun dispositif de soutien n'a été jusque-là mis en place par le gouvernement pour venir en aide à ce secteur sinistré. Les centaines d'intermittents du monde du cinéma, par exemple, ne disposent d'aucun statut, ni de cadre juridique, ni de couverture sociale. Ils ne figurent ni dans les statistiques relatives à la population active, ni même dans celles recensant les chômeurs.
Voilà la position de notre correspondant en Tunisie, Michel Picard. Donc, on parlait de la situation aux États-Unis, mais évidemment, donc c'est parce que c'est un gros fournisseur de films. Mais est-ce que vous suivez donc la situation dans des autres pays ? Est-ce que ça vous interpelle, Éric Lagès, vous qui notamment distribuez aussi des films étrangers. Hein. Vous parliez par exemple du nouveau film du réalisateur iranien Mohamed Rasoulof.
Oui, tout à fait. Bah écoutez, oui, nous, de toute façon, on est, nous déjà, on est exportateur de films aussi à Pyramide, donc on a Pyramide International, qui est une structure qui vend les droits des films à des distributeurs étrangers, donc évidemment, on suit ça de très près, on suit la fermeture des salles, on suit les difficultés des distributeurs, et puis notre année est rythmée, bah, un peu moins cette année, mais j'espère que tout va revenir comme avant, en tout cas en 2021. Mais notre année est rythmée par les festivals du monde entier, de Sundance qui commence en janvier, poursuivi par Berlin en février, Cannes, Locarno, Venise, Toronto, etc. Donc ce sont des endroits où on se déplace, ce sont des endroits où on va voir des nouveaux films, des films frais qu'on peut acheter pour les sortir en salle et les amener donc au public français. Et du coup, on a aussi beaucoup de contacts avec les acheteurs qui font le même boulot que nous, mais les acheteurs italiens, espagnols, américains, etc. Donc on parle énormément de la situation, et là-dessus, évidemment, il y a des amitiés qui se nouent, et des gens avec qui je suis en contact par mail tout le temps, et avec qui on discute, et de nos difficultés. Et sans compter que, par exemple, on partage aussi souvent beaucoup de films. Moi, je suis distributeur indépendant, Pyramide, donc en France, mais j'achète parfois les mêmes films que tel distributeur en Belgique, tel distributeur en Suisse, etc. Donc, on parle des bandes-annonces, on parle des affiches, on parle de tout ça et de comment on peut parfois mutualiser nos efforts et avoir une campagne voilà cohérente dans des pays francophones, etc. Donc évidemment, on est très très en contact avec les étrangers.
Éric Lagesse, Richard Patry, c'est une question que je vous pose à tous les deux. On imagine l'état d'épuisement nerveux dans lequel vous vous trouvez, dans lequel toutes les professionnels du cinéma se trouvent après ces mois de yo-yo, de valse et hésitation, d'ascenseur bloqué ou débloqué. Mais autant tout le monde a envie que le système vertueux français continue, bien sûr. Mmh. Est-ce que pour autant l'un et l'autre, vous n'avez pas le sentiment qu'on est un peu à un moment de grand Big Bang, de changement de paradigme. Sophie parlait tout à l'heure de l'arrivée des plateformes qui vont financer le cinéma français, même s'il y a encore beaucoup de points d'interrogation sur la diversité, sur le calcul du chiffre d'affaires, sur le grand âge, etc. Est-ce qu'on n'est pas arrivé à un moment d'épuisement du système?
Moi je crois pas du tout.
Moi, je
pense vraiment il y a une évolution de ce système, il y a un nouveau diffuseur clairement ces plateformes ne sont pas rien elles modifient les habitudes de vision des films, elles modifient plein de choses, mais en tous les cas voilà, on a été confronté au début des années 80 à la multiplication des chaînes de télévision, dans les années 60 à la multiplication de la télévision, etc. À chaque fois le cinéma a su se réinventer, parce que voir un film, et ça c'est on va dire là aussi l'exception culturelle française, pour nous français, un film c'est une œuvre audiovisuelle qui se voit assis dans le noir devant un écran blanc et qui se voit et qui se partage avec d'autres personnes au même moment, et ça pour nous c'est absolument irremplaçable. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne fait pas des œuvres audiovisuelles de très grande qualité qui ne passent pas au cinéma les auteurs, et d'ailleurs les auteurs peuvent passer très bien, mais comme ça a toujours été le cas Hitchcock est passé du cinéma à la télévision, de la télévision au cinéma, plein de fois. Et donc là, il y aura des réalisateurs de très grands talents qui feront des films dont la vocation seront d'aller sur ces plateformes, et des films dont la vocation seront d'aller d'abord sur les salles de cinéma et ensuite sur ces plateformes et sur les autres modes de diffusion qui, ne l'oublions pas, sont pas morts encore. Canal+ joue encore un rôle très important, OCS joue un rôle très important également, les chaînes de télévision privées et publiques jouent un rôle très important. Donc ces plateformes, c'est un nouveau média, un nouveau diffuseur. Bien sûr, il faut que nous, professionnels, nous ayons l'intelligence de les intégrer le mieux possible. Mais moi, je crois encore dur comme fer. C'est pour ça que je me bats, parce que dans cette période d'incertitude totale, si je pensais que la bataille était finie, je peux vous dire que j'y mettrais pas l'énergie que j'y mets, et que Eric met aussi à son niveau, et que les producteurs mettent à leur niveau, etc., et les industries techniques. Non, moi, je crois vraiment que le cinéma en salle a un avenir. Le cinéma en salle, c'est une idée neuve. Aujourd'hui, un film, c'est une œuvre qui se partage dans une salle de cinéma. Et je pense que ça va être encore le cas pour des dizaines d'années, voire même des centaines d'années.
Eh bien, c'est sur cette note d'espoir, et puis néanmoins en grosse incertitude, que s'achèvent tous les cinémas du monde aujourd'hui. Merci Éric Lagesse, merci Richard Patry. On n'hésitera pas à vous recontacter dans les mois qui viennent, au fur et à mesure que la situation va évoluer. Et puis là, je lance un appel à tous nos auditeurs. Chers auditeurs, n'hésitez pas non plus à nous contacter via notamment notre page Facebook pour nous faire partager, vous, vos coups de cœur de cinéma, un film que vous aurez pu voir en salle il y a longtemps ou tout récemment, si vous êtes dans un pays où il y a encore des salles de cinéma, un coup de cœur, un vieux film, un nouveau film, nous vous donnerons la parole. Tous les cinémas du monde, c'est fini pour aujourd'hui. Au micro, Elisabeth Lequéré
et Sophie Torlotin, à la réalisation Fanny Renard.
Rendez-vous samedi prochain, même heure, même cinéma.
Tous les cinémas du monde.
Sophie Torlotin.
Elisabeth Lequéré.